Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés ce matin pour cette 14e conférence OPCI. 14e conférence OPCI dans un contexte évidemment très particulier, 100% virtuel avec cette crise sanitaire qui se prolonge en cette nouvelle année. Nous vous proposons cette année une conférence de 1 heure qui portera à la fois sur le bilan et les principaux enseignements de cette année 2020, mais également et surtout une projection sur 2021 avec des mises en perspective, des tendances sur les évolutions réglementaires, fiscales qui vont impacter notre industrie immobilière en 2021. Avant de commencer cette conférence, je tenais à vous présenter à tous, au nom des associés et des équipes de PwC, tous nos vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de santé, bien sûr, pour vous et vos proches, mais également l'espérance de laisser rapidement cette année 2020 derrière nous et de revenir à une vie plus normale et de pouvoir avoir des conférences physiques avec vous. Alors, sans attendre, on va maintenir cette conférence sur une durée de 1 heure. Le programme de la matinée en 5 temps. On va commencer avec un entretien avec Jean-Marc Colli, président de l'ASPIM depuis septembre dernier. Nous ferons après un point sur les actualités réglementaires avec Isabelle Hamel, qui est directrice régulatory chez PwC. Cette partie a été préparée avec Marc Laglace. Malheureusement, Marc est souffrant en ce début d'année et ne peut être présent avec nous ce matin. Nous avons bien sûr une pensée pour Marc et Marc, je vous souhaite un rétablissement très rapide. Une troisième partie, plus orientée business, avec Grégory Frappé, CEO de Primonial REIM. Un point d'actualité fiscale, comme d'habitude, je dirais, avec Philippe Emiel sur les quelques évolutions de fin d'année 2020. Et pour finir, une cinquième partie, un peu habituelle dans notre conférence sur les enjeux ESG, avec un focus cette année, évidemment, sur le label ISR. Cette partie sera présentée avec Véronique Donadieu, déléguée générale de l'ASPIM, qui a été très impliquée et qui est très impliquée dans la mise en place du label ISR pour le secteur immobilier. Et Nicolas Brémond, qui est senior manager et qui pilote les équipes développement durable immobilier de PwC à Paris. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite cette conférence avec Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Tu as été nommé président de l'ASPIM en septembre dernier. Entre le premier et le deuxième confinement, d'ailleurs, on avait pu avoir cette conférence de l'ASPIM en physique. L'année 2020 a été exceptionnelle avec cette pandémie qui a déclenché une crise économique violente et globale. Quels sont les principaux enseignements de cette crise pour le secteur immobilier d'une manière générale et les investissements collectifs, les véhicules d'investissement collectif en particulier?
Bonjour à tous, merci pour cette audition matinale. Alors, je vais essayer quand même dans ce contexte un peu morose, hein, il ne fait pas très beau, il fait un peu gris, voilà, d'essayer d'avoir un influx positif sur une classe d'actifs immobiliers, les fonds immobiliers non cotés, non pas par optimisme BA, mais par volonté de tromper, mais simplement parce que on est adossé à des réalités sur 2020, hein, qui seront sans doute l'exemple de ce qui se passera en 2021. Voilà. Et ça mérite pas, justement, la morosité ambiante, mais plutôt une forme, non pas d'optimisme BA, mais encore une fois de points positifs sur la classe d'actifs que nous avons. Alors, comme le temps est contraint, je crois qu'on va aller rapidement. Premier point, c'est ce que je voudrais souligner, mais c'est qu'on le dit moins ou pas assez. On est vraiment dans une crise qui n'a rien de commun. Enfin, on est revenu à la peste il y a quelques siècles. C'est une crise sanitaire. Il n'y a pas du tout de réalité économique. Et on pense hein, que passer cette crise sanitaire, et on est peut-être pas loin de cette sortie avec le vaccin, les choses reprendront normalement. Et si on regarde un peu tout ce que racontent les prévisionnistes, là c'est pas l'ASPIM, hein, c'est les prévisionnistes des différentes maisons, on voit bien qu'on est dans une crise temporaire dont la sortie alors, bouge un petit peu, hein, mais on voit bien que en principe en 2023, on devrait retrouver quelque chose hein, qui ressemblerait à ce qu'il y avait en 2019. Sans doute avec des pays plus gagnants, d'autres un peu plus perdants, mais quelque chose. Voilà. Donc, on a pour la première fois quand même dans une crise une vision de la sortie hein, et donc d'un temps de crise qui est assez mesuré et assez compté, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et en matière immobilière, on va voir ça a un intérêt important hein, parce que c'est ce qui va aussi gouverner notre manière de gérer les fonds. Deuxième réflexion, la première, c'est que il y a une crise économique hein, qui est la conséquence de cette crise sanitaire et qu'on ne peut pas imaginer que l'immobilier ne soit pas touché. Les entreprises que l'on gère, que l'on loge dans nos bureaux, les particuliers dans nos logements, les commerçants, les restaurateurs, les salles de sport, ce sont nos clients. Quand ils souffrent, on doit nécessairement souffrir. Hein, il ne faut pas imaginer que l'immobilier est à l'extérieur de tout ça. Hein, non, l'immobilier est dans l'activité économique. Alors, ceci étant, les fonds immobiliers non cotés, je mets de côté les propriétaires privés hein, qui détiennent leur actif et qui en ont un ou deux et qui n'ont pas une mutualisation suffisante. Je mets de côté les fonds très spécialisés hein, sur l'hôtellerie et encore, voilà, ou sur le commerce qui, eux, vont souffrir d'une manière particulière parce que la classe d'actifs sur lequel ils sont investis souffre un peu plus particulièrement. Je vais plutôt essayer de parler des fonds généralistes. Hein. Dans ces fonds généralistes non cotés immobiliers, et bien globalement, on va bien avoir le rôle qu'on attendait d'eux, c'est un rôle d'amortisseur à cette crise. Pourquoi ils sont des amortisseurs? La première des raisons, c'est que c'est pas une crise économique que nous avons, c'est pas une crise immobilière hein, que nous avons eue, et nous n'avions pas de crise immobilière avant. On était sur un marché avant d'entrer dans cette crise sanitaire qui était un marché sain, hein, sain en termes de prix, sain en termes de volume, sain en termes de taux d'occupation, pas de surproduction, pas de choses comme ça. Donc, bien évidemment, on va pas rajouter les propres déséquilibres de notre marché aux déséquilibres sanitaires, hein, ce qui fait que on a l'aptitude à résister sans doute un peu mieux. Deuxième point qui est fondamental hein, dans les fonds que nous gérons, c'est la diversification des risques. Bien évidemment, la crise n'est pas supportée de la même manière, on le voit bien, dans les secteurs économiques différents, il y a des secteurs gagnants, il y a des secteurs perdants. Elle n'est pas supportée de la même manière dans les pays. Tout le premier confinement a été plus favorable dans les pays du Nord qu'il ne l'était dans les pays du Sud. Et que le fait d'avoir cette diversification d'immeubles, de locataires, de qualité de locataires, nature de secteur économique, fait que nécessairement, les fonds immobiliers vont traverser la crise avec quelque chose d'un peu plus amorti. Troisième point, qui me paraît indispensable à bien comprendre, c'est qu'on vit avec nos clients, avec nos locataires, on a deux clients, les porteurs de parts et les locataires, sur des contrats longs. En France, on parle des baux 3, 6, 9, dans d'autres pays, ils sont un peu plus longs. Donc, tous ces contrats longs, dans une crise, justement, qui a un temps mesuré, théoriquement, l'impact doit être plus faible. Et alors, globalement, entre cette crise qui n'est pas une crise immobilière, entre cette diversification géographique et sectorielle, et ces contrats longs qui nous lient, on a une année plutôt pas mauvaise pour les fonds immobiliers. C'est le plus positif. On a des résultats, bien sûr, qui s'ajustent parce qu'on a bien sûr des locataires qui n'ont pas payé, avec lesquels on discute, ceux à qui on fera des cadeaux, ceux à qui on reportera des loyers. Allez, globalement, pour l'ensemble de la profession, on a une masse de loyers à encaisser qui est, allez, à 5 ou 10% près, celle que l'on envisageait d'encaisser au cours de l'année de 2020. Donc, ça, c'est pas, ça sera sans doute meilleur en termes de distribution aux associés parce qu'on va, pour beaucoup d'entre nous, d'entre les groupes adhérents à l'ASPIM, distribuer une part de report à nouveau. Le report à nouveau, c'est les réserves qu'on a accumulées quand tout allait bien pour s'en servir quand tout va mal. Alors évidemment, quand on a une perspective de crise qui est assez courte, si on voit bien à 3 ans, on peut utiliser ces réserves de manière un peu plus forte pour soutenir la distribution. Et c'est ce qui va se passer. Et malgré un résultat immobilier un peu plus faible que celui que nous avions prévu, on va avoir des distributions qui vont être, encore une fois, entre 0 et 10%, entre 90 et 100% de ce qui avait été prévu, ce qui est plutôt pas mal dans le contexte actuel. Ça veut dire des rendements autour de 3,5, 4%, ce qui est plutôt un bon rendement par rapport à tout ce qui se passe sur le reste des produits financiers. Et même si la bourse va très bien, c'est un bon comportement, ou du moins, c'est le comportement qu'on attendait en matière immobilière. Sur le plan de la valorisation, là encore, on a un marché immobilier extrêmement actif. Il y a des transactions, il y a des cessions. Et donc, les experts ont été assez à l'aise à la fin de l'exercice, ou pas trop mal à l'aise, je vais dire autrement, pour fixer des valeurs d'expertise assez proches de ce que l'on avait l'année dernière, puisque en moyenne, sur les fonds que gèrent les adhérents d'ASPIN, on devrait avoir des écarts d'expertise entre 0 et moins 3%. Il y a des fonds qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'écart d'expertise. Donc là encore, en termes de valorisation, un immobilier qui se tient et donc des prix de part des véhicules, et ces pays particulièrement, qui devraient se tenir pour tous les adhérents à peu près à la fin de l'exercice. Donc distribution entre 90 et 100% de ce qui était prévu, valorisation qui ne devrait pas bouger. Il ne faut pas entendre, mais je l'ai bien dit en introduction, que l'immobilier n'est pas touché, mais il a bien joué son rôle d'amortisseur. Dernier point, c'est la liquidité. Pas de problème de liquidité. On a une collecte alors qui a été assez erratique cette année, très forte les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois, complètement endormie jusqu'au mois de juin, puis elle repart progressivement. Voilà, troisième trimestre, on n'a pas encore les chiffres définitifs parce que les adhérents ne les ont pas trouvés, mais on voit bien, nous, 2 petites distinctions. Les réseaux bancaires sont pas repartis tout de suite. Pourquoi? Parce que eux ont à gérer une relation clientèle peut-être un peu plus difficile à entretenir quand les agences sont fermées ou quand la digitalisation n'est pas au point, mais ils font des progrès à toute vitesse. Et puis surtout, ils ont l'activité économique dont ils s'occupent, les PGE, l'essor des entreprises, donc moins de temps à consacrer au placement et plus à la situation économique des entreprises. À l'inverse, tous les réseaux qui travaillent avec des réseaux intermédiaires, des CGP ou même de la distribution directe sont repartis beaucoup plus fort. Et je crois qu'ils ont fait pour beaucoup d'entre eux un troisième trimestre assez confortable, ce qui laisse augurer d'un début d'exercice 2021 et d'une année 2021 plutôt pas mal en termes de collecte. Et les bancaires rattraperont le russe. Donc là encore, sur le plan de la collecte, 6,4 milliards de collecte à la fin de septembre, 20% de moins que ce qu'on avait prévu. On devrait terminer l'année entre 7 et 8 milliards. C'est plutôt, voilà, encore aussi une bonne note. Et en tout cas, pas de problème de liquidité. Les rachats n'ont pas augmenté, ça mérite d'être souligné. Hein. C'est plutôt la collecte qui avait diminué, hein, mais les rachats n'ont pas augmenté dans cette période de crise. Donc, on distribue, on valorise, on ne dévalorise pas, hein, c'est ça le point, et il n'y a pas de souci de liquidité, mais une collecte positive. Globalement, voilà, l'immobilier avait fait. Ce qui me rassure également, c'est que on a su assurer, mais ça, c'est le président de la SPIM, hein, et là, c'est qui est clair, la synthèse entre la solidarité économique que les sociétés de gestion de SCPI doivent avoir à l'égard des secteurs économiques qui souffrent, hein, et portés par les associations professionnelles, alors la SPIM, bien sûr, mais aussi la FG et la FSIF, on a négocié avec des pouvoirs publics des diverses choses, hein, notamment une charte au mois de juin qui a permis de soutenir les TPE en leur abandonnant des loyers, puis un mécanisme d'abandon d'un mois de loyer dans le deuxième confinement en contrepartie d'un crédit d'impôt à 50%, ce qui a permis justement aux sociétés de gestion d'être solidaires des entreprises qui souffraient, sans pour autant perturber le premier client de leur client qui est le porteur de part, hein, en assurant ses distributions. Et cette espèce de synthèse, cette solidarité économique des SCPI, on revient à mon thème de départ, ça prouve évidemment que les gérants de fonds immobiliers sont bien dans l'activité économique, tiennent bien compte de l'activité immobilière et qu'on est bien loin de l'immobilier des rentiers dont certains nous ont parlé en 2010.
Merci Jean-Marc. Donc on voit effectivement une résilience des véhicules immobiliers. Si on se projette sur 2021, on est évidemment ce début d'année encore un peu au milieu du guet, hein, avec des mesures de confinement qui se prolongent ou qui se renforcent dans certains pays, mais comme tu le signalais, hein, une campagne de vaccination qui commence à se déployer et qui donne des perspectives. Quelles sont justement les perspectives du secteur pour 2021 ou même un peu au-delà, comme tu mentionnais, une échéance à 2023?
Alors, c'est un peu difficile pour la SPIM, parce qu'on n'a pas encore le retour de la totalité des informations de nos adhérents, qui eux, par contre, ont fait tous le travail de la prévision de leurs résultats en 2021, puisqu'ils le communiquent au conseil de surveillance au mois de décembre et aux associés au cours du mois de janvier. Ce que je ressens, c'est une incertitude plutôt mesurée, mais positive. On voit bien qu'on va avoir la situation financière, sanitaire va provoquer une situation économique plus compliquée, qu'on peut pas avoir 3 ou 4 points d'augmentation de chômage, encore une fois, sans que l'immobilier soit perturbé. Ceci étant, le chômage touche des catégories d'acteurs qui sont plutôt des gens, malheureusement, plutôt dans la précarité, hein, des intermittents dans le spectacle, des gens dans la restauration, peut-être moins dans ce qui est notre domaine, notre cœur de métier, l'activité bureau, etc. Mais on ne peut pas ne pas avoir une conséquence. Donc, la situation économique, et particulièrement le chômage, va avoir une petite conséquence sur la demande de locaux et donc le niveau des loyers, la facilité à louer ou à relouer nos locaux. Pas plus que ça, mais voilà, on part de taux d'occupation qui est extrêmement faible, extrêmement élevé, de taux de vacances, pardon, extrêmement faible, hein, voilà, qui peuvent supporter ça. Ça sera plus ça la difficulté que le télétravail, hein, même si on en parle beaucoup, la modification des modes de fonctionnement, ça aura une influence, hein, je dis pas que ça n'en aura pas, mais c'est plutôt la situation économique. Donc, sur ce point-là, ça sera sans doute un peu plus difficile. Ça sera aussi un peu plus difficile sur le plan de l'indexation des loyers. On voit bien que le ralentissement économique et la part du PIB, de l'évolution du PIB dans l'évolution des indices qui nous servent à revaloriser ou dévaloriser les loyers, voilà, va avoir une influence et qu'on va sans doute avoir des indexations négatives pendant peut-être un ou deux trimestres. Ça rebondira après, dès que la reprise sera là, mais ça va contribuer sans doute à une année un peu plus difficile. Mais on a toujours ces contrats longs avec nos clients et à partir du moment où on fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on les aide à se maintenir à l'intérieur des locaux en faisant peut-être des franchises de loyers, en reportant des loyers, on maintient cette occupation. Et au final, on devrait avoir, me semble-t-il, une année qui serait assez semblable à celle de 2020, c'est-à-dire des distributions voilà, à peu près au niveau de celle de 2020, en utilisant sans doute peu ou pas du report à nouveau pour essayer de compenser et d'améliorer la distribution résultant de notre résultat. Des valorisations qui ne devraient pas bouger beaucoup non plus. Plus on va s'approcher de la reprise, hein, plus on va avoir, le marché a beaucoup d'argent et de capitaux disponibles à l'investissement. On y reviendra après sur la collecte. Hein. Donc, une pression forte sur le marché de l'investissement qui conduit les prix à se maintenir, voire parfois augmenter dans certains domaines. Hein. On retrouve une échelle des valeurs immobilières entre les actifs core, qui eux ne subissent pas de baisse, voire même parfois des augmentations de prix, et des actifs un peu moins core qui eux, bien sûr, subissent un peu plus de difficultés. Mais globalement, voilà, on sent que on va avoir un relatif soutien sur les prix par la nature, l'importance des capitaux qui sont prêts à s'investir, hein, et puis la proximité de la sortie qui fait que tout le monde va être un peu plus rassuré. Donc, sur le plan de la distribution, même si les groupes publient plutôt des fourchettes, voilà, en disant on servira entre temps et temps, parce qu'il y a un peu d'incertitude. On doit être très proche de ce qui se fait en 2020 et pas de soucis d'équité et encore moins de soucis de collecte. Parce que pour la collecte, là, on a un réservoir colossal. Vous avez vu que les Français ont beaucoup épargné pendant cette période. Hein, je ne sais plus si on en est à 40, 50 ou 60 milliards. Alors, bizarrement, ils n'ont pas épargné de manière assez telle qu'on aurait aimé, mais qu'ils le fassent en se précipitant sur l'immobilier valeur refuge. Pour l'instant, ils ont mis tout leur argent sur leur compte bancaire. On voit bien et on comprend pourquoi ils le font. Mais il y a un moment où tout ça va sans doute basculer, hein, où retrouvant de la confiance dans l'activité, ils vont sans doute s'interroger sur ce qu'ils font de cet argent. Je pense qu'ils vont consommer, d'ailleurs, ça a été fait pour ça, hein, sur leur donné du pouvoir, pour soutenir l'activité économique, puis le reste, ils vont le placer. Et là, il faut que l'immobilier soit là, et il sera là, parce qu'en fait, il représente bien ce que veulent les clients, ce côté, voilà, valeur refuge, à condition, hein, qu'on donne à ses clients une bonne information, une information transparente et de la perspective. C'est pour ça que tout ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, quand les groupes vont eux-mêmes annoncer à leurs clients leur perspective de rendement pour 2021, la vision de leur marché en 2021, ça va être essentiel dans la reprise de cette collecte. Et quand je vois ce qui s'est passé au troisième trimestre dans les groupes, en contact notamment avec les CGP, je suis pas très inquiet sur la taille de la collecte en 2021. Donc, on ne devrait pas avoir non plus de problème en 2021 sur cet aspect collecte et liquidité. Et puis, dernier point, parce que ça, c'est important, on va avoir, hein, ça c'est la reprise, hein, de nouveaux secteurs qui vont s'ouvrir à l'immobilier. Plan d'épargne retraite, dont on ne parle plus, Europe, il y a beaucoup de choses, beaucoup de vecteurs de collecte, les sociétés civiles dans les contrats d'assurance. Voilà, on voit que l'immobilier voilà, recueille, est un élément parfaitement adapté justement à ces problèmes d'épargne retraite, d'épargne salariale, d'assurance vie, et qu'au niveau européen, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui sur le développement de nos produits, et que ça sera encore un accélérateur de la collecte des fonds immobiliers français à un autre côté sur le marché. Donc, c'est le point important. Et puis le dernier, vous en parlerez tout à l'heure, c'est l'apparition de ce label ISR, hein, qui va donner à l'immobilier, là aussi, avec des acteurs fortement engagés, à quelque chose qui devrait attirer la collecte des particuliers. Donc, encore une fois, performance à peu près raisonnable en 2021, proche de celle que nous avons eue, valorisation sans doute sans trop de difficultés compte tenu de la proximité de la crise, et une collecte forte résultant du comportement des Français, mais aussi de nouveaux secteurs qui pourraient s'ouvrir pour l'épargne immobilière non cotée. Voilà, c'est ça ce qu'on peut voir pour 2021.
D'accord. Merci Jean-Marc. Peut-être un dernier éclairage. On échangeait ensemble sur ce sujet pour préparer cette conférence. C'est le contexte de taux qui est évidemment durablement bas, voire négatif. Peux-tu nous faire part de ton analyse et l'impact de ce contexte sur les fondamentaux immobiliers?
Déjà, c'est mon analyse, hein, c'est pas le voilà, mais elle mérite d'être nuancée, parce que je rappelle que juste avant la crise, sur ce domaine-là, on était tous en train de s'inquiéter de conséquences de la remontée des taux. C'est juste pour 6 mois. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui sur les taux de demain, je suis d'accord avec toi, ils sont durablement bas. On voit bien les taux allemands à 30 ans qui sont presque négatifs à 30 ans. Enfin, c'est pas donc. Ça pose bien sûr des questions sur. Moi, ça me pose en tout cas des questions sur l'objectif de rendement qu'on peut attendre de l'immobilier. Alors, je suis allé voir un peu ce qui se passait dans des pays qui vivent ce contexte de taux bas depuis très longtemps, et notamment le Japon, ou une partie de l'Asie. Et là, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose qu'on connaît bien d'ailleurs en Europe, ce qui prouve que le comportement immobilier est à peu près le même dans tous les pays. On voit bien une prime de risque donnée à l'immobilier dans les rendements de l'immobilier. Allez, autour de 300 points de base, et puis avec un peu d'effet de levier, peut-être 350 points de base, par rapport au taux court. Donc, ça veut dire que, pour moi, concrètement, attendre ou avoir ou espérer de l'immobilier dans les années qui viennent, et les longues années qui viennent de tout bas, un rendement autour de 3,5-4% avec un peu d'effet de levier et en déduction des frais de gestion, c'est pas quelque chose d'impossible pour l'immobilier. Donc, on peut voilà sereinement avoir ça. C'est le comportement qu'on a vu dans d'autres pays, dans un contexte qui est celui des taux bas que l'on va connaître. Donc, c'est ça. Alors, au-delà, on peut toujours faire mieux. Encore une fois, les taux immobiliers, on peut faire en allant investir ailleurs, en prenant un peu plus, mais c'est la contrepartie d'un risque. Il faut que les gens l'entendent. Essayer d'acheter du boulevard Haussmann, la rue de la Boétie à 7%, aujourd'hui, c'est pas possible. Et on sait bien que aller acheter pour servir des rendements un peu plus élevés, on va ouvrir des secteurs, ouvrir des zones géographiques avec un peu plus de risque. C'est pas un drame. Je trouve ça extrêmement positif. Dans une allocation d'actifs, on peut prendre des risques. On n'est pas obligé de prendre que des obligations, par exemple, de sociétés parfaitement propres. On peut prendre aussi des obligations un peu plus risquées. Mais encore faut-il que les clients le sachent et tout va bien. Donc, on a aussi un petit travail à faire, nous, sans doute, dans notre profession, hein, sur la classification de nos véhicules, hein, pour que, au moment où les gens rentrent dedans, ils comprennent parfaitement vers quoi ils s'engagent. Que le simple, rendement affiché de l'année ne soit pas simplement le seul critère, mais qu'on comprenne ce que ça veut dire derrière. Donc, l'immobilier assurera ses 3,50, 4% dans le contexte taux parce que c'est ce qu'on se contente ailleurs et puis la prime de risque me paraît assez raisonnable. Et puis, il peut y avoir plus, mais c'est la contrepartie parfois d'un risque un peu plus important qui peut être pris, mais qui doit être compris.
D'accord. Écoute, merci beaucoup Jean-Marc en tout cas pour cet éclairage. On va passer directement sur les aspects réglementaires avec Isabelle Hamel. Isabelle, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous indiquer quels sont les principaux enseignements pour les SGP immobilières des contrôles menés par l'AMF en 2020 ?
Bonjour à tous. Alors, pour mémoire, les contrôles spot dont nous allons parler hein, sont des contrôles qui sont menés sur un nombre limité de sociétés de gestion par une même équipe des équipes de contrôle et sur des thématiques qui sont définies en début d'année. Alors, juste une petite parenthèse, on est un tout petit peu tôt dans l'année, donc je ne pourrai pas vous donner les thématiques 2021 qui seront communiquées lors des vœux de l'AMF par le président. L'objectif de ces contrôles, c'est d'identifier de fait sur un certain nombre de thématiques des bonnes et mauvaises pratiques. Ça n'est pas un contrôle en tant que tel des sociétés de gestion elles-mêmes. En revanche, bien évidemment, si des dysfonctionnements majeurs venaient à être relevés lors d'un contrôle, un contrôle effectif ou une enquête pourrait être menée et conduire à sanctions éventuelles ou au process plus classique. Alors, pour 2020, on souhaitait revenir sur deux contrôles particulièrement qui sont susceptibles de concerner les sociétés de gestion immobilière. Le premier, c'est le contrôle qui a porté sur les modalités de réalisation des prestations immobilières qui avait pour objectif de s'assurer que les modalités de sélection des prestataires étaient correctement mises en place, que le suivi et les contrôles, bien sûr, étaient également pris en compte. Alors, je pense que si on synthétise les côtés mauvaises pratiques, ou tout au moins les points à renforcer, alors il y a trois grands points qui apparaissent comme à renforcer dans les conclusions de l'AMF. C'est d'une part tout ce qui est traçabilité des process de sélection des prestataires, c'est-à-dire une formalisation en amont de critères factuels et objectifs qui permettent de comparer, de mettre en concurrence des prestataires et donc de sélectionner de manière appropriée ces derniers avec bien évidemment une attention particulière aux problématiques de conflit d'intérêts au sein du groupe de la société de gestion, mais conflit d'intérêts également lorsque les prestataires sont, présentés, voire imposés, si on peut le dire, par les actionnaires majoritaires. Le deuxième point sont les modalités d'évaluation des prestataires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la réglementation impose que soient contrôlés et évalués périodiquement les prestataires, là également, ce qui manque dans les points qui ont été relevés, ce qui manque, c'est la définition d'indicateurs objectifs qui permettent de documenter en fait l'évaluation qui est faite. Et puis le dernier sujet qui est remonté, qui n'est pas forcément celui auquel on pense immédiatement, c'est celui de l'information claire des investisseurs, à la fois bien sûr sur le prestataire lui-même, mais surtout sur les coûts, et notamment dans le cas dans lequel un même prestataire serait retenu pour faire à la fois des prestations d'asset management et de property management. C'était le premier contrôle. Le second a porté, il porte sur l'ensemble des sociétés de gestion, mais également sur un certain nombre de sociétés immobilières. Il a porté en fait sur la délégation des contrôles permanents et ou périodiques qui peuvent être le fait d'un certain nombre de sociétés de gestion en fonction de la taille, en fonction de l'organisation, pour assister le RCCI dans la réalisation des contrôles et la mise en œuvre de son plan d'action. Les points clés, alors on retrouve sans grande surprise les points clés sur la traçabilité du processus de sélection et de réexamen périodique du choix initial, c'est-à-dire que lorsqu'un prestataire est choisi, il n'est pas choisi pour les 10 prochaines années, ce choix doit être réexaminé périodiquement. C'est la vérification des moyens effectifs du prestataire pour la réalisation des engagements qui sont pris, donc notamment du temps prévu, Et puis, si l'on parle de temps prévu pour les contrôles, une distinction claire des tâches effectuées, c'est-à-dire que ce qui est constaté, hein, c'est que souvent, au-delà des contrôles périodiques et ou permanents, les prestataires assistent également par de la veille réglementaire, assistent également par l'animation d'un certain nombre de formations. Et souvent, ces tâches supplémentaires, je dirais, sont imputées directement sur les temps prévus pour les contrôles. Donc, on a cette distinction à faire. Et puis, le dernier point qui mérite d'être, je dirais, d'être mis en évidence, c'est au sein des sociétés de gestion, la formalisation des décisions des comités internes, à la fois sur les remédiations aux points relevés, mais également sur la validation de la levée des recommandations post-remédiation, et puis l'appréciation annuelle que doivent faire les organes de gouvernance de manière formalisée de l'efficacité du cadre général de contrôle. Je dirais, au-delà de ces deux contrôles spot, il y a un sujet, en discutant avec Marc en début de semaine, il y a un sujet qui ressort, hein, qui remonte, qui a fait l'objet de contrôle à la fois en 2019 et 2020 par l'AMF, qui est la cybersécurité. Et en fait, le risque de cybercriminalité reste élevé, reste un risque que le régulateur prend, je dirais, de manière très sérieuse en considération. Et il est vraiment nécessaire, surtout dans le contexte particulier dans lequel on est, hein, de mode de fonctionnement souvent un peu dégradé. Donc, l'attention, il faut vraiment maintenir l'attention sur ce sujet et s'assurer que les process permettent de maîtriser le risque et au moins d'identifier de manière immédiate toute manœuvre qui mettrait la société en risque, hein, afin de prendre des mesures appropriées.
Oui, Isabelle, tu parles effectivement du risque de cybercriminalité. Clairement, la situation sanitaire connue en 2020 a entraîné l'émergence de nouveaux risques ou de risques complémentaires. Quels sont les points d'attention particuliers qu'il conviendrait de prendre en compte au 31 décembre 2020?
Alors, je ne traiterai pas dans cette partie-là des problématiques spécifiques relatives aux abandons de loyer que Philippe traitera plutôt dans la partie fiscale. Alors, je dirais il y a deux risques et un point d'attention. Le premier risque, l'appréciation et le suivi du risque de liquidité. Alors, Jean-Marc vient de nous expliquer que pour l'instant, enfin tout au moins sur 2020, sur la base des données que l'on a aujourd'hui, on se rend compte que même si la collecte a pu être faite de manière un peu hiératique sur l'année. Il n'y a pas de chute significative de la collecte et pas d'impact d'augmentation significative des rachats. Donc, on peut se dire qu'à aujourd'hui, ce risque de liquidité est probablement pas totalement avéré, je dirais. En revanche, il y a malgré tout une attente particulière de renforcement des process que l'on a vu faire en 2020 auprès de nos clients, hein. Donc un renforcement des process afin de suivre l'ensemble des flux de manière très très proche pour anticiper les éventuels risques de liquidité. Alors le premier point, il est un point d'attention sur la réalisation des stress tests de liquidité. C'est un sujet que l'AMF a en point de mire pour les véhicules de gestion collective dans leur ensemble et notamment pour l'immobilier. Et elle s'attend de fait à ce que, d'une part, les stress tests soient mis en place probablement de manière plus fréquente, que le suivi des souscriptions et des rachats pour les OPCI ou souscriptions et retraits pour les SCPI soit renforcé de manière à identifier le plus en amont possible des risques éventuels sur le déroulé des opérations de sortie des véhicules. Un point d'attention peut-être spécifique sur les SCPI, enfin deux points d'attention. Pour les SCPI existantes, on a vu cette année être mis en place ou défini et alimenté des fonds de remboursement dans les SCPI, c'est-à-dire que les principes existaient mais n'avaient pas forcément été mis en place. Donc, l'utilisation du fonds de remboursement, son placement et le suivi des dotations est à processer, je dirais, de manière particulière et à suivre et à contrôler. Et puis, dans les discussions, en fait, avec l'AMF, ils ont attiré notre attention sur le risque pour des SCPI qui voudraient se lancer de définir au départ peut-être des ambitions trop importantes au regard de la situation de marché, notamment de définir un capital maximum de départ trop élevé. Et donc, on comprend que certains véhicules qui ont été lancés en 2020 ou auraient dû être lancés en 2020 n'ont pas pu remplir les obligations de collecte de 15% du montant maximum qui sont attendues. Et l'AMF, après analyse, considère qu'il n'est pas possible de revenir sur ce montant maximum et donc de diminuer le montant maximum pour démontrer que ben, finalement on a une collecte suffisante et donc on a quelques, alors c'est un nombre limité, mais on a quelques SCPI qui derrière ont dû rembourser les investisseurs et donc mobiliser les garants. Donc point important. Le risque opérationnel est un risque qui existe également et notamment du fait du recours massif au télétravail, confinement ou pas confinement d'ailleurs. Donc dans ce contexte, hein, les points d'attention, c'est vraiment l'ajustement des cartographies de risque opérationnel et de l'appréciation de ces risques. Et qui dit appréciation des risques opérationnels dit vérification de leur couverture par les fonds propres de la société de gestion de portefeuille. Donc vraiment à ne pas oublier et d'adapter les process de contrôle qui sont mis en place tant au premier qu'au second niveau. On a pu voir qu'au second niveau, généralement, les process de contrôle ont suivi. C'est quelquefois moins vrai au niveau du premier niveau. Et puis un point d'attention, c'est on a passé la date de clôture, hein, le 31 décembre est passé, donc il faut réfléchir à l'information financière qui va être donnée. Le principe est que dans le compte de résultat, on n'identifie pas de manière distincte ou spécifique l'impact de la crise sur les comptes, c'est-à-dire que la comptabilisation des opérations se fait dans les comptes habituels sans identification en résultat exceptionnel, par exemple, de points particuliers. En revanche, lorsqu'approprié, une information est à prévoir en annexe sur les différents postes. Je pense, on va reparler d'abandon de loyer, je pense notamment à des volumes d'abandon de loyer qui permettent d'expliciter une variation du compte de résultat. Bien évidemment, une information appropriée sera communiquée dans le rapport de gestion au PCI-SCPI, hein, au titre d'une part des activités de l'exercice et d'autre part des perspectives 2021.
Isabelle, pour rester justement sur ce domaine de l'information financière, le 31 décembre dernier a été publié l'arrêté d'homologation du plan comptable des OPC à capital variable. Quelles sont les conséquences à en attendre pour les OPCI ?
Alors, on vous en parle rapidement. Le plan comptable des OPC à capital variable a été refondu. Donc, ça fait maintenant plus de 2 ans, hein, que les travaux ont été lancés par l'ANC. Il entrera en application pour les exercices ouverts à partir du 1er octobre 2023. Donc, on a un peu de temps. En revanche, ce qu'il faut savoir sur ces modifications, c'est qu'elles sont liées notamment à la modification légale pour les OPCI à capital variable, mais pas pour les OPCI, de la définition des sommes distribuables dans le code monétaire et financier. Et du coup, le plan comptable maintenant, enfin les états financiers des OPCI à capital variable vont prévoir des soldes différenciés ou des soldes intermédiaires au sein du compte de résultat avec une intégration dans le compte de résultat du résultat latent. Pour autant, ça ne veut pas dire que le résultat, les plus et moins values latentes deviendront distribuables. Ça veut vraiment dire que c'est une présentation financière, ça ne changera pas le fait qu'on ne distribuera pas les plus-values latentes. Aujourd'hui, le code monétaire et financier n'a pas été modifié pour les OPCI. Donc, on a, un plan comptable des OPCI à capital variable qui devrait s'appliquer aux OPCI pour la partie instrument financier, qui ne peut pas, en l'état, en tout état de cause, s'appliquer, puisque les définitions ne sont pas les mêmes. Alors, on a commencé les discussions au sein de l'ANC. On a eu un premier échange en fin d'année, justement pour essayer d'anticiper dans quelle direction on pouvait aller. Donc, des travaux vont être menés spécifiquement pour voir comment aborder ces sujets-là pour les OPCI. Je pense que ma conclusion serait, sachez qu'il a été modifié, sachez qu'à aujourd'hui, ça n'entraîne aucune conséquence pour vous et en tout état de cause, pas avant 2023.
Et merci Isabelle. Et peut-être une toute dernière question rapide. Est-ce que tu peux nous faire un point sur les évolutions du règlement PRIIPs, s'il te plaît?
Oui, alors juste un petit point de situation, parce qu'on a eu des informations en toute fin d'année 2020, le règlement PRIIPs, donc, qui est celui qui impose aux véhicules commercialisés auprès d'une clientèle non professionnelle d'établir un document d'information clé, le DIC, au sens du règlement PRIIPs. Donc, ce règlement et ses actes délégués font l'objet d'un process de mise à jour qui est très compliqué. Il est compliqué parce qu'en fait, notamment sur les actes délégués, les trois autorités de supervision européennes sont impliquées, c'est-à-dire l'ESMA pour les sociétés de gestion, mais également le BA pour les banques et l'EIOPA pour les assurances. Et les trois autorités n'arrivent pas à se mettre d'accord, et notamment l'autorité des assurances a rejeté les propositions qui étaient faites sur les évolutions des actes délégués. Donc, la Commission européenne, en fin d'année, s'est prononcée sur deux sujets. Le premier, c'est une question de process, c'est-à-dire qu'elle a imposé une date butoir au 29 janvier 2021 pour que les autorités de supervision proposent des actes délégués modifiés validés par les trois autorités. Sinon, la Commission européenne a d'ores et déjà annoncé qu'elle prendrait les mesures directes, elle-même en interne, pour établir ces actes délégués et donc, quelque part, court-circuiter un peu les autorités de supervision, ce qui est la règle. Elle a également indiqué qu'elle n'entendait pas à date, c'est-à-dire au 31 décembre, modifier la fin d'exemption. Alors, vous savez que certains véhicules aujourd'hui ont ce que l'on appelle un DC format UCITS, donc notamment les OPCI grand public, mais également vos OPCI professionnels pour lesquels des clients non professionnels pourraient souscrire. L'exemption DC UCITS et donc l'obligation d'un DIC PRIIPs pour tous les véhicules est prévue pour l'instant entrée en application au 1er janvier 2022. Et donc, la Commission européenne, au 31 décembre, a confirmé ou a indiqué qu'elle n'entendait pas, à cette date-là, reporter à nouveau la date d'exemption. C'est-à-dire qu'on a déjà eu un premier report. Donc, alors même qu'on a des textes qui, aujourd'hui, ne sont pas définitifs, et l'un des points d'achoppement, c'est l'intégration ou pas, notamment, de performances passées, sachez qu'au 31 décembre 2021, vous devriez, sauf évolution de la commission sur les mois à venir, basculer sur un DIC PRIIPs pour tous vos véhicules.
Ok, merci beaucoup Isabelle pour ces précisions. Je me tourne maintenant vers Grégory Frappé sur les aspects marché, business. Grégory, avant d'aborder 2021, quel est le bilan de cette année 2020 pour Primonial REIM, notamment en termes de collecte, performance des véhicules gérés, et quels sont les principaux enseignements que tu retires de cette période particulière?
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Effectivement, l'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour chacun d'entre nous en tant que citoyen du fait de la crise sanitaire, mais également pour l'ensemble de nos clients investisseurs qui ont pu avoir de nombreuses questions sur l'opportunité d'investir ou de rester positionné en matière d'immobilier collectif non coté. Également beaucoup d'échanges avec les locataires qui ont pu rencontrer des difficultés, alors partiellement compensées en 2020 par les mesures de soutien à l'économie apportées par le gouvernement et puis par les effets induits par la crise économique et l'évolution bien évidemment des usages dans les années à venir. Également une pensée pour les collaborateurs de Primonial REIM pour lesquels la mise en œuvre du télétravail et le respect de l'ensemble de leurs obligations a été au prix d'un engagement absolument exceptionnel. Si on regarde maintenant très concrètement ce qui s'est passé en matière de collecte, force est de constater que l'année 2020 n'aura pas été un mauvais millésime pour l'immobilier collectif non coté. Pour rappel des chiffres, en 2019, nous étions sur une année record au niveau du marché avec près de 8,6 milliards d'euros de collecte en progression de près de 68% par rapport à l'année 2018. Et en 2020, nous sommes au 30 septembre sur 4,5 milliards d'euros de collecte et on imagine un atterrissage. Alors Jean-Marc nous disait tout à l'heure autour de 6 milliards d'euros. dans ce contexte, une saisonnalité assez importante de la collecte, avec un premier trimestre qui était dans le prolongement de l'année 2019, extrêmement dynamique, un coup d'arrêt au moment du premier confinement, avec des réseaux de distribution qui ont dû comprendre l'environnement inédit dans lequel ils se plaçaient. Et puis progressivement, au cours des troisièmes et avec une confirmation au quatrième trimestre, un retour de la collecte particulièrement marqué pour les sociétés de gestion portefeuille qui ont des réseaux de distribution internes ou intermédiaires. En matière de chiffres, pour Primonial REIM, nous avions un niveau de collecte de 1,3 milliard d'euros en matière de SCPI en 2019 et nous devrions finir l'année 2020 autour de 950 millions d'euros de collecte. En matière d'unités de compte immobilière, donc commercialisées dans des contrats d'assurance vie, nous finirons l'année autour de 900 millions d'euros de collecte. Donc c'est près de 2 milliards d'euros de collecte retail. Les grands enseignements pour moi de l'année, c'est effectivement, et les deux premiers intervenants l'ont souligné, vraiment une année de stress test où nous avons pu éprouver la force du modèle avec la liquidité extrinsèque des SCPI et la liquidité intrinsèque des OPCI grand public. Pas de problématique de liquidité, des échanges réguliers avec le régulateur sur nos stress tests et puis un niveau de retrait très maîtrisé puisque pour Primonial REIM, nous sommes à moins de 3% de retrait et l'ensemble des retraits qui nous ont été transmis ont pu être exécutés. En matière de performance, si on regarde la distribution de notre gamme de SCPI, nous étions très tôt engagés à distribuer à nos porteurs de parts la totalité des loyers que nous allions encaisser. En matière d'encaissement, sur la partie des bureaux, nous avons des encaissements habituels, comparables à ceux des années précédentes, avec plus de 97% de loyers encaissés. Il en est de même pour les autres classes d'actifs, à l'exception peut-être de l'immobilier de commerce, mais là aussi, plutôt une bonne surprise, puisque notre taux d'encaissement annuel en matière d'immobilier de commerce sera supérieur à 65%. En matière de valeur de notre patrimoine immobilier, nous sommes à l'équilibre en matière de valeur d'expertise par rapport à l'année 2019. Jean-Marc en a parlé, le taux prime, le taux core a tenu, mais en revanche, il y a à nouveau une plus grande et plus saine peut-être hiérarchie des taux qui s'exprime pour rémunérer le risque, que ce soit un risque locatif, on pense à des secteurs peut-être un peu plus attaqués comme la défense ou la péridéfense, un risque locatif lorsque nos locataires sont susceptibles de rencontrer des difficultés ou des risques administratifs ou des risques liés à la construction des bâtiments. Et aujourd'hui, un même taux n'est pas appliqué sur un immeuble livré que sur un immeuble en cours de construction dans le cadre d'une VFA. Donc, si vous voulez un message plutôt positif en matière de performance, que ce soit sur le prix de souscription de l'immobilier collectif non coté, mais également sur la possibilité pour nous de distribuer des rendements identique à ceux de 2019, à l'exception du commerce, et en tout cas proche des objectifs de distribution qui étaient les nôtres avant le Covid. Pour autant, la situation n'est bien sûr pas ordinaire. Dans les grands enseignements que j'en retiens, au-delà de la liquidité et de la gestion de cette liquidité, ça a été la nécessité peut-être de faire progresser nos systèmes d'information, de revoir toujours et encore nos process, et puis d'intégrer l'ensemble des nouveaux usages qui vont être induits par cette crise sanitaire, et puis d'essayer de mesurer également les effets de la crise économique qui sera peut-être devant nous et qui peut toucher nos locataires.
Oui, c'est justement l'objet du point suivant sur 2021. Et si on se focus sur les marchés immobiliers, comment vois-tu les impacts de cette crise sur les marchés immobiliers? Alors, est-ce qu'on peut déjà dessiner des tendances ou est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt? Et quelles sont les convictions de Primonial REIM sur ce domaine?
selon moi, plus aucune entreprise ne pourra faire l'économie d'une réflexion sur la place qu'elle souhaite apporter à l'immobilier. L'immobilier, c'est le deuxième poste de coût fixe d'une entreprise à côté de la masse salariale. Et cela interroge à deux titres. D'une part, pour ce que je vais qualifier de directeur financier qui doit faire le chèque pour payer le loyer et qui peut avoir une tentation de sacrifier des mètres carrés. Et puis, il y a également l'utilisateur, le collaborateur, qui également s'interroge sur son rapport à quelque chose de très important pour lui, qui est la manière dont il souhaite exercer son activité. Je pense, si on regarde l'immobilier de bureau, qu'il y a une très forte évolution entre le premier et le deuxième confinement. Sur le premier confinement, il y a une sorte d'excitation liée au fait de s'approprier des nouvelles technologies, de se rendre compte avec un effet d'apprentissage assez rapide qu'il était possible pour chacun d'entre nous, et votre conférence ce matin en témoigne, de s'exonérer d'un déplacement physique pour pouvoir réaliser un certain nombre d'échanges. Pour autant, et que ce soit nos locataires, mais avant toute chose les collaborateurs de Primonial REIM, beaucoup d'entre eux partagent avec moi leur attachement au siège social et le fait qu'au-delà du télétravail, beaucoup d'entre eux ne veulent pas être les prestataires d'une compagnie, mais vraiment s'inscrire dans un projet collectif. Quels sont, dans ce cadre-là, les enseignements que l'on peut en tirer? Je pense que les années 2020, puis 2021 et 2022 exprimeront une nécessité de rationalisation du parc immobilier et peut-être des recherches d'économie vont s'exprimer de la part d'un certain nombre de structures. Pour autant, et en tout cas pour Primonial REIM, nous on l'a abordé plutôt comme une opportunité. Nous sommes protégés par des baux longs. Et nous allons mettre à durer les baux longs de l'immobilier d'entreprise pour faire évoluer encore plus notre parc d'immobilier de bureaux et pour offrir des offres de services vraisemblablement revisitées et regarder comment adapter notre parc immobilier de bureaux pour qu'il soit toujours en adéquation avec les attentes de nos clients utilisateurs. Le take-off, c'est-à-dire l'absorption de mètres carrés chaque année, il est en principe autour de 2 millions d'euros. Je pense que l'attentisme dans la prise de décision va faire que ces mètres carrés ne seront pas absorbés par le marché au cours de l'exercice 2021, mais il y a aussi la possibilité de se rapprocher de nos grands utilisateurs pour leur proposer de prolonger la durée de leur baux, de leur consentir des mesures d'accompagnement concentrés sur 2021 et 2022 pour leur permettre de traverser la crise économique. Et je suis persuadé qu'en 2023, nous reviendrons à une situation plus normalisée, que l'on se rendra compte de la nécessité d'avoir les bureaux pour pouvoir exprimer de la créativité, un projet commun et que les Français en règle générale resteront très attachés aux bureaux. En ce que j'en retiens en tant que gérant maintenant, c'est la nécessité de faire des choix d'allocation relativement clairs à proposer à nos épargnants. Pour Primonial REIM, nous avons une règle d'allocation qui est sectorielle, où nous proposons au travers de produits SCPI purs quant à la nature des sous-jacents dans lesquels ils investissent, une allocation que je recommanderais autour de 50% en bureau, autour de 30% sur les thématiques de la santé, de la vie, de l'éducation, c'est-à-dire pour proposer la rémunération d'un risque démographique avec des cash flows provenant de grands exploitants du monde médico-social, soit des cliniques ou des EHPAD, et de compléter en diversification sur des classes d'actifs qui sont alternatives pour Primonial REIM, et nous en avons trois, l'immobilier résidentiel qui, selon moi, peut à la fois accompagner l'évolution des usages avec le build to rent, avec le co-living, mais également porter des opportunités d'évolution des valeurs en matière de prix, si l'on sait identifier les zones tendues dans les grandes métropoles, qu'elles soient françaises ou européennes, mais également dans des logiques peut-être un peu opportunistes sur de l'immobilier de commerce et y compris sur de l'immobilier d'hôtellerie. Et nous sommes par exemple chez Prem, très proche d'un grand acteur de l'immobilier de l'hôtellerie économique qui est B&B et qui a réglé en 2020 la totalité de ses loyers. Donc en récapitulant, je dirais en 2021, être très vigilant sur la qualité des actifs sur laquelle nous allons nous positionner, confirmer nos choix d'allocation sectorielle et puis, bien évidemment, continuer à regarder le maintien des performances de nos produits et puis d'intégrer le sujet très important et dont vous avez peut-être en tête de tout ce qui est relatif à la responsabilité que nous avons en tant que gérants sur un certain nombre de thématiques.
Merci Grégory. Jean-Marc faisait référence effectivement à la très forte épargne constituée, un peu forcée, hein, constituée par les Français pendant ces périodes de confinement et de restrictions. Moi, j'avais en tête plutôt un chiffre de l'ordre de 100 milliards d'euros. Effort d'épargne qui se poursuit d'ailleurs hein, en 2021. Quel peut être l'impact du contexte économique, incertitude, niveau d'épargne très important sur l'investissement immobilier des Français et notamment en matière d'immobilier, d'investissement d'immobilier collectif?
Je crois qu'il y a eu un peu d'attentisme malgré tout et que les communications qui vont être faites sur l'ensemble des sociétés de gestion sur à la fois les prix de souscription, les rendements 2020 et les perspectives de rendement en 2021 vont être déterminantes dans la collecte qui devra s'employer sur les produits d'immobilier collectif. Moi, j'aime regarder cette possibilité pour les épargnants de placer leur épargne en immobilier collectif non coté en comparaison avec les produits et le risque porté par les autres catégories de produits. Si on regarde l'investissement sur des produits de taux, la rémunération est extrêmement faible, voire nulle, que ce soit sur le livret A. On voit que les fonds en euros, qui sont très plébiscités également par les épargnants, voire leur performance s'éroder un peu après année après, mais c'est aussi la contrepartie de la garantie en capital. Et puis, il y a l'investissement sur des produits d'asset management financier, mais qui offrent plus de rémunération, mais aussi plus de risques et plus de volatilité. En comparaison, il me semble que l'immobilier en général et l'immobilier collectif non coté en particulier est de nature à la fois à protéger le capital des épargnants et offrir des rémunérations qui ont des niveaux relativement significatifs. Moi, je raisonne un peu comme l'a fait Jean-Marc Colli en me disant quel est le rapport, quel est le spread entre l'OAT d'une part et la rémunération qui est offerte par l'immobilier. En dessous d'un OAT à 30 ans, on est en France sur des niveaux et des territoires négatifs d'OAT, autour de moins 0,30 à moins 0,60% selon la durée de l'OAT que l'on regarde. On voit aujourd'hui qu'on n'est absolument pas dans la situation de 2008 qui n'était pas saine, puisqu'on avait une meilleure rémunération de l'OAT qu'une rémunération du rendement prime ou core de l'immobilier de bureau. Il n'était donc pas anormal de constater une décompression des taux pour rémunérer à sa juste valeur le risque immobilier. On est dans un contexte actuel où on peut imaginer des investissements très prime autour de 3%, des investissements core autour de 4%. Ça veut dire que l'investissement immobilier reste en matière de bureau très bien rémunéré. Et dans ce contexte-là, dès lors qu'il y aura un peu de visibilité sanitaire, et le vaccin va bien évidemment aller dans le bon sens, l'épargne de précaution des Français, elle va à la fois se porter sur la consommation, je pense qu'il y a beaucoup de consommation qui a été différée, mais également sur l'épargne, et dans l'épargne, à mon avis, sur l'immobilier collectif non coté, qui durablement s'est installé dans le paysage de l'épargne. En matière des SCPI, on est autour de 70 milliards d'euros d'encours gérés. Donc, je suis assez positif sur les perspectives en termes de collecte. Et en matière d'investissement, je pense que nous pourrons investir, que ce soit à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, puisque beaucoup de gérants prennent désormais cette orientation. Nous saurons investir cette épargne sans dilution de la performance. Et je souscris également à ce qui a été dit, c'est qu'il faudra toujours beaucoup de pédagogie pour expliquer aux clients qu'un rendement, c'est bien évidemment la rémunération d'un risque et qu'il ne faut pas simplement regarder le rendement d'une année en particulier.
Merci. Peut-être une dernière question rapide. Nous allons aborder dans la dernière partie de cette conférence le label ISR avec Véronique Donadieu et Nicolas Brémond. Plusieurs fonds de Primonial REIM viennent d'être labellisés ISR. Qu'est-ce que cela représente pour toi et pour Primonial ?
Alors effectivement, que ce soit les environnements sociaux ou le label ISR, c'est quelque chose qui est très fortement ancré dans l'ADN de Primonial REIM. Peut-être vous dire un mot, moi je suis relativement persuadé que les plus jeunes générations seront extrêmement vigilantes lorsqu'ils épargneront sur l'aspect social, environnemental de leur épargne. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un avantage compétitif à envisager la labellisation d'un ou plusieurs de ces fonds, mais que demain, il y aura possiblement un effet discriminant sur les fonds, mais qu'ils soient immobiliers ou plus généralement d'asset management financier, et qu'ils ne feront pas l'objet d'une transparence sur l'impact de leurs investissements. Alors, comme vous le savez, hein, l'immobilier est parfois à tort un peu décrié sur son impact, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'énergie consommée par les bâtiments. Et nous sommes tous collectivement, au niveau de la profession, engagés à faire réduire cet impact de près de 40% d'ici à 2030. Moi, je distinguerais dans cette logique deux approches, celle du best in class et celle du best in progress. Et c'est vrai que là aussi, il faudra beaucoup de transparence vis-à-vis de nos investisseurs. Ce n'est pas la même chose de partir d'un parc immobilier à faire évoluer que d'investir son épargne dans un parc immobilier qui est déjà bien positionné en la matière. Au niveau de PREM et presque depuis la création de l'entreprise, nous challengeons chacun de nos investissements au regard d'une notation et nous sommes capables d'identifier assez vite si c'est un actif à faire évoluer, à faire progresser ou si c'est un actif qui est d'ores et déjà vertueux en matière d'impact ISR. Donc, je pense que c'est un enjeu qui est fondamental, qu'il faut faire avec énormément de sincérité. La SPIM nous a beaucoup aidés, accompagnés par la définition effectivement de ce label. Et puis, un certain nombre de gérants, hein, nous ne sommes pas les seuls, mais PREM a pu labelliser Primopierre, qui est notre SCPI bureau assez blockbuster, au titre du label ISR au mois de décembre. Et puis, nous réfléchissons également sur un OPCI qui aurait les mêmes caractéristiques en best in class. Et peut-être un mot d'encouragement pour l'ensemble des gérants de dire que sur Primopierre, nous avons une performance globale au cours de l'exercice 2020, année extrêmement complexe en matière de relations avec les locataires, supérieure à 5%, et que donc on voit qu'il n'y a pas forcément d'inadéquation entre le fait d'essayer d'être un bon élève en matière d'ISR et la performance. Et je suis convaincu que dans les années à venir, nous arriverons collectivement à aligner les intérêts entre l'intérêt des investisseurs, l'impact sur l'environnement et puis la performance, parce que bien évidemment, ce que viennent chercher nos investisseurs chez nous, c'est de la performance.
Merci beaucoup, Grégory, pour ces précisions. J'enchaîne tout de suite sur les aspects fiscalité avec Philippe Emiel, qui est avocat chez PwC et qui va nous faire un rapide flash fiscal sur les dernières évolutions de la fin de l'année 2020.
Philippe, je te laisse. Merci, Jean-Baptiste. Merci, Jean-Baptiste. Donc, très brièvement, un aperçu donc, des dispositions de la loi de finances pour 2021. Étant entendu que dans la loi de finances pour 2021, il y a principalement trois mesures qui concernent l'immobilier. La première, c'est un régime de neutralisation en matière de cession-bail. La deuxième mesure, c'est un régime de neutralisation en cas de réévaluation libre. Et la troisième mesure, c'est le crédit d'impôt pour les bailleurs renonçant à des loyers. Alors, je n'aborderai pas les deux premières mesures dans la mesure où ça ne concerne pas particulièrement les OPCI, et je vais me concentrer sur la dernière mesure, c'est-à-dire les crédits d'impôt pour les bailleurs renonçant à des loyers. Alors, on a préparé quelques slides qui doivent apparaître, j'imagine, de votre côté. Donc, le crédit d'impôt pour les bailleurs renonçant à des loyers, quels sont les bailleurs concernés? C'est les personnes physiques qui sont domiciliées en France, les personnes morales, y compris les entreprises qui sont exonérées d'impôt, et les OPC. Donc, le scope est assez large. S'agissant des entreprises locataires concernées, ce sont les entreprises locataires dont les locaux font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de novembre 2020 ou qui exercent leurs activités principales dans le secteur éligible au fonds de solidarité. Deuxième condition, ces entreprises locataires ne doivent pas être en difficulté au 31 décembre 2019, n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration et elles ne sont pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Et dernière condition, il faut qu'elles emploient moins de 5 000 salariés, qui est un seuil apprécié au niveau mondial. Donc, après, nous passons sur la slide suivante. Quelle est la période concernée? Donc, ce sont les abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors charges échus au titre du mois de novembre 2020, et simplement celui-ci, et consentis au plus tard le 31 décembre 2021. La date du 31 décembre pourrait 2021 pourrait vous surprendre, c'est juste pour couvrir les sociétés qui auraient un exercice qui ne correspond pas à l'année civile. Par exemple, on pourrait avoir une société qui a un exercice du 1er novembre 2020 au 31 novembre 2021. Le montant du crédit d'impôt, donc là on distingue les entreprises qui ont moins de 250 salariés. Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant total de l'abandon consenti. Pour celles qui ont des salariés, au moins 250 salariés et moins de 5 000 salariés, le montant du crédit d'impôt est égal à 50% dans la limite de 2/3 de 100% du montant total de l'abandon de loyer consenti. Maintenant, passons sur le plafond du crédit d'impôt. Le plafond du crédit d'impôt est de 800 000 euros. Il correspond au plafond d'aide d'État défini par la Commission européenne, retenu dans la limite du crédit d'impôt dont bénéficie le bailleur. En conséquence, et en l'absence de toute autre aide perçue par le locataire, le montant total des abandons ne peut excéder 1,6 million pour les entreprises qui ont moins de 250 salariés et 2,4 millions pour les entreprises qui sont entre 250 salariés et 5 000 salariés. Donc, c'est une appréciation au niveau du locataire et pas local par local. C'est un plafond qui est global, c'est-à-dire que ce seuil de 800 000 euros, on doit prendre en compte tous les abandons de loyers qui ont été accordés, mais également les autres aides issues du fonds de solidarité. Difficulté, c'est la détermination du montant maximum de l'abandon de loyer éligible au crédit d'impôt eu égard aux autres aides perçues par le locataire. Et on peut passer à la slide suivante. On va voir qu'il y a un mécanisme, j'en parlerai un petit peu plus loin, qui a été mis en place. Donc, l'utilisation du crédit d'impôt est différente selon les différentes catégories concernées. Les personnes physiques et les personnes morales soumises à l'IS, ben, ce crédit d'impôt va être imputé sur soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés, et en cas d'excédent, il sera remboursé. Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés et les OPC, le crédit d'impôt est utilisé par les associés, porteurs de parts ou actionnaires ou associés proportionnellement à leurs droits. Donc, par exemple, dans les SCPI, ce crédit d'impôt va passer directement aux associés personnes morales ou personnes physiques des SCPI, ce qui va soulever effectivement un problème pratique, c'est après de dispatcher ce crédit d'impôt parmi tous les porteurs de parts ou les associés des SCPI. Pour les SIC, c'est imputable sur l'IS, bien entendu, si la SIC a un secteur taxable, et sinon il est remboursable pour l'excédent. Pour les OPCI, crédit d'impôt remboursable à l'OPCI, à la SPICAV ou au FPI. La procédure à suivre pour bénéficier de la mesure, s'agissant du locataire, une attestation sur l'honneur qui certifie que le locataire remplit bien l'ensemble des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt. Et à ce titre, il convient de signaler que un modèle a été proposé conjointement par la SPIM et l'AFG, et j'imagine que vous avez dû tous le recevoir. Pour le bailleur, c'est le dépôt d'un formulaire dédié dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Voilà ce que je pouvais dire en 5 minutes de temps qui m'était alloué. Et je vous passe, Jean-Baptiste, je te repasse la parole. Ah, si, peut-être, dernier commentaire, je passe la parole à Isabelle Hamel qui voulait parler des aspects comptables. Tu vois, je ne t'ai pas oublié.
Non, alors très rapidement, Philippe, si je peux peut-être juste dire sur les OPCI, il faut distinguer quand même les FPI qui seront traités comme les SCPI en fait, hein, puisqu'elles sont transparentes fiscalement. Alors, ce que vient de dire Philippe, c'est important comptablement, parce que ça veut dire que pour ce qui est pour les SCPI, on n'a aucun impact comptable de l'effet crédit d'impôt, puisque ce crédit d'impôt étant transféré directement, il fait l'objet d'un suivi, bien sûr, mais extra-comptable au niveau de la SCPI pour calcul de l'allocation aux différents associés. Pour les SPICAV, en revanche, qui pourront bénéficier du remboursement, on aura une comptabilisation, bien sûr, dans les comptes de la SPICAV et donc en impact résultat et valeur liquidative de ce crédit d'impôt.
Merci beaucoup à tous les deux. On va finir cette conférence avec une dernière partie sur les enjeux ESG développement durable, avec un focus sur le label ISR qui a vraiment pris son envol en 2020. Et je laisse la parole à Nicolas Brément et à Véronique Donadieu. Nicolas.
Oui, merci Jean-Baptiste. Oui, donc tout à fait. Donc en fait, le sujet du label ISR immobilier est un sujet qu'on avait déjà abordé lors de cette même conférence l'an dernier et sur lequel on avait pu mesurer qu'il y avait énormément d'attentes de la part des acteurs. Néanmoins, l'an dernier, on était encore en cours de discussion avec les pouvoirs publics et le projet n'avait pas pu être validé. Et pour cette année, je pense que Grégory a déjà révélé la bonne nouvelle, mais Véronique, je pense qu'on peut enfin et officiellement dire que le label est bien né, et je pense qu'on peut même aller plus loin en disant qu'il a déjà un certain succès.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Alors, en effet, c'est l'aboutissement de 3 ans de travaux et de discussions. Alors, quand même, pour rendre justice, je dirais, à nos travaux et au texte, le référentiel était finalement stabilisé déjà depuis la fin d'année de l'année dernière. Et au fond, c'est plus dans les tuyaux du ministère et de l'administration que que ça a pris un peu plus de temps pour publier les textes. Vous le savez, il a été publié officiellement au journal officiel en juillet 2020 et puis 3 mois après, il est entré en vigueur 3 mois après. Donc, au fond, depuis le 23 octobre, il s'est passé énormément de choses et on a été, alors on savait qu'il y avait des labels en préparation, mais moi j'étais très surprise et très agréablement surprise de voir qu'au fond, en 6 semaines, on a eu quand même 9 labels. Et donc je dis bravo à tous les labellisés, à toutes les SGP qui se sont tenues prêtes et qui ont fait un travail en amont, parce que évidemment tout ce travail-là ne s'est pas fait à partir du 23 octobre. Donc effectivement, après 3 ans et demi d'échanges et de travaux, on voit arriver sur le marché des premiers fonds labellisés. Donc, ce que je disais, sous 5-6 semaines, on a pu voir 9 fonds. Alors, Nicolas, est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu maintenant tout de suite ou un petit peu plus tard
Tout à fait. Je pense que justement, un des points qui est assez remarquable, c'est qu'il y avait une certaine diversité. Donc, je pense que si tu as quelques éléments à nous partager là-dessus, ça peut être très intéressant.
Ah non, c'est très intéressant parce que entre un des soucis, je voudrais juste rappeler que ce label est bien un label public, il est géré au niveau du ministère de l'économie, des finances et de la relance, concrètement aussi géré par le comité du label. Bon, mais c'était bien une initiative, la déclinaison immobilière procède d'une initiative du secteur. À l'origine, il y avait la charte de la SPIM qui était destinée à promouvoir l'ISR dans l'immobilier, et puis en allant plus loin dans les réflexions et dans la nécessité de formaliser un cadre ESG pour une profession qui était déjà engagée de façon un peu disparate, la déclinaison immobilière du référentiel valeur mobilière a été démarrée à l'initiative de la profession, mais avec toutes les parties prenantes et notamment le régulateur. Donc ça a pris du temps, et je dirais qu'un des enjeux qui présidait réellement à faire en sorte que ce label ne soit pas un label élitiste, c'est bien de trouver le juste équilibre entre une démarche différenciante, mais aussi une démarche qui potentiellement puisse être, je dirais, appropriée par toute une typologie finalement de SGP et de fonds, pour peu qu'on s'en donne les moyens naturellement, mais il faut trouver cet équilibre pour pas que ça soit un label de niche, parce que l'enjeu, c'est bien de faire rentrer dans une démarche importante l'ensemble des gestionnaires qui souhaiteraient le faire. Pour revenir au label, ça se concrétise finalement parmi les 9 fonds labellisés, on voit qu'on a une typologie de fonds très différente. D'abord par la nature des véhicules, puisqu'on a, alors on a 9 fonds, on a 5 SCPI, excusez-moi, je vois mes petites notes, on a 6 SCPI, on a 2 OPCI, une SICAV, une SCI, donc vous voyez déjà un champ très, très diversifié. On a aussi des véhicules historiques très importants avec beaucoup de lignes, beaucoup d'actifs, ce qui veut dire que c'est effectivement ce que disait Grégory Frappé, c'est que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait du jour au lendemain. La perspective ISR a été appréhendée par un certain nombre de gérants bien en amont de ce label qui concrétise des démarches préexistantes. Et puis on a aussi des nouveaux véhicules qui se sont créés sur des typologies, d'ailleurs sur des stratégies assez différentes. Et ça aussi, c'est très intéressant, puisque c'était important que le label puisse permettre une différenciation dans les stratégies, qu'on n'arrive pas à une uniformisation aussi de ce qu'on veut faire en matière d'ISR. Simplement, 2-3 chiffres que je trouve intéressants, parce qu'encore une fois, en 6 semaines, quand on regarde les chiffres du label valeur mobilière, il ne s'agit pas de se comparer, mais quand même, je dirais sur les neuf premiers fonds labellisés, on arrive déjà quand même à une valeur du patrimoine immobilier total de 7,6 milliards, ce qui est assez considérable parce qu'on est quasiment à 10% de la valeur du patrimoine détenu par les véhicules grand public. En 6 semaines, c'est énorme. Et puis, on sait aussi que d'autres véhicules sont dans le process d'obtenir des labellisations. On devrait en voir fleurir au courant janvier. Et donc, ça portera vraiment la valeur du patrimoine qui est donc labellisé ISR à des montants bien plus importants. Et on est sur, qu'est-ce que j'avais noté comme chiffre qui pouvait aussi vous intéresser, on est sur 2 600 000 mètres carrés. Et alors, on est quand même aussi sur des approches qui sont majoritairement best in progress, ce qui n'est pas étonnant puisque on l'a vu, ça faisait partie effectivement de un peu de la raison d'être, je dirais, de ce label pour améliorer un parc existant sur les 3 piliers E, S et G. Voilà.
Donc, on le comprend, une belle diversité. Et je pense aussi, Véronique, on peut peut-être revenir sur l'esprit et les principales caractéristiques de ce label, mais le fait insister sur le fait que ça reste une démarche qui est volontaire. On est vraiment dans un cadre volontaire, libre au fond, qui le souhaite, d'obtenir ce label, malgré le fait que ce soit un label d'État. Et ça, je pense que c'est plus une garantie intéressante. Le label, il faut rappeler qu'il reste propriété du ministère des Finances. Également un point important, et ça c'est tout le travail qui a été fait justement par la SPIM et ses membres sur le référentiel, on a vraiment un socle commun de règles qui doivent être respectées par les fonds qui en font la demande, et tout ça est audité par un certificateur externe lors d'un audit initial, mais aussi de manière annuelle. Donc il y a vraiment un suivi continu dans le temps de la certification des fonds. Et tout ça, pourquoi ? Pour permettre, parce que c'est vraiment l'objectif de ce fonds, de ce label, pardon, de permettre aux investisseurs et en particulier les particuliers de pouvoir identifier rapidement et simplement les fonds qui cherchent à concilier performance financière et extra-financière, et donc finalement attirer, et je pense que c'était un point qui était soulevé par Jean-Marc en introduction, mais attirer la collecte, notamment des particuliers qui souhaitent donner du sens à leur épargne. C'est vraiment le principal enjeu. Côté société de gestion, qu'est-ce que cela implique? Ce label, ce qu'il va nécessiter, c'est de mettre en place un système de management des facteurs ESG, donc c'est-à-dire de pouvoir prendre en compte dans les prises de décision d'investissement et dans la gestion du parc immobilier ces fameux critères ESG. Et je pense, par rapport au premier retour d'expérience que l'on peut avoir, qu'il y a trois dimensions clés et très très importantes à garder en tête dans le cadre de ce label. La première, c'est que c'est une véritable démarche de transparence. Ce qui est attendu, c'est que les fonds communiquent sur les objectifs recherchés par la prise en compte de ces critères ESG, qu'ils présentent et communiquent sur leur méthodologie et qu'ils rendent des comptes à minima de manière annuelle sur les résultats de leur démarche. Donc ça, c'est un aspect très important et je pense que ça rejoint aussi le propos sur la transparence qui était revenu l'introduction de Jean-Marc et dans le discours de Grégory. Deuxième point, c'est que c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée. Je le disais tout à l'heure, notamment au niveau des audits, mais pas que. C'est vraiment une démarche de progression, et ça, Véronique le mentionnait avec une approche best in progress, mais vraiment une démarche de progression au fil du temps et qui sera contrôlée de manière annuelle par le certificateur. Et enfin, je pense que le troisième point que l'on constate et qui est très important à avoir en tête, c'est que c'est une démarche qui est transverse, parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, elle touche toutes les fonctions de la société de gestion. Elle va impacter l'investissement, elle impacte l'asset management, elle impacte le contrôle interne, enfin vraiment toutes les fonctions sont concernées, ce qui nécessite réellement de sensibiliser, d'informer et de former en fait l'ensemble des personnes qui vont contribuer à la mise en place de cette démarche. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le label ISR. Je pense qu'il y avait un deuxième point que l'on souhaitait aborder aujourd'hui et qui s'est passé, enfin qui est, sur lequel on a observé des grosses évolutions cette année, parce qu'on a eu une actualité très riche en parallèle, c'est vraiment les sujets de finances durables, puisqu'on a eu des grosses évolutions au niveau européen, notamment avec le déploiement des premiers volets du plan d'action finance durable européen, dont l'objectif principal est de réorienter les flux de capitaux justement vers des produits plus durables, et puis également au niveau français avec les travaux de l'AMF notamment sur ces sujets extra-financiers. Donc voilà, donc on assiste réellement en fait actuellement à une grosse évolution qui est en train de bousculer en fait l'ensemble du secteur financier et qui directement forcément impacte également les fonds immobiliers. Et par rapport à tout ça, je pense que Véronique, ce serait intéressant que tu puisses nous dire quelques mots sur les travaux qui sont menés, les objectifs en fait, et les travaux qui sont menés au niveau de la commission ISR qui a été mise en place par la SPIM cette année.
Oui, et d'ailleurs qui est sur lesquels vous nous accompagnez, PwC et toi Nicolas en particulier. Oui, alors en effet, c'est le label ISR était un petit peu le commencement de tout, mais très rapidement, on s'est quand même aperçu que l'ESG, la finance durable, on l'appelle d'une façon générale, appliquée à notre secteur, ne pouvait pas être abordée qu'à travers le prisme du label ISR, parce que, comme tu l'as dit, c'est une démarche volontaire, le label ISR, qui néanmoins va quand même permettre déjà de se mettre largement dans les clous, et on veillera à ce que ça soit toujours le cas, c'est un des enjeux aussi pour nous, de la réglementation financière qui nous arrive quand même assez rapidement et de façon assez nouvelle pour le secteur de la gestion immobilière. Et donc, à côté de cette démarche volontaire, il y a bien un ensemble de réglementations qui va s'appliquer au secteur financier en général, mais j'irai en particulier au secteur de la gestion immobilière, puisque, comme vous le savez, il existait quand même un certain nombre de réglementations en termes de transparence, parce qu'on est plutôt actuellement sur comment communiquer, dire ce qu'on fait et expliciter l'impact de notre activité, de nos investissements par rapport à différents critères qui ne sont plus uniquement climatiques, mais on voit bien que la durabilité au sens général aussi est présente disons que c'est un prisme sur lequel maintenant on va devoir communiquer, c'est plus seulement l'impact climatique. Et c'était évident que voilà, on aborde ces travaux-là dans un cadre plus formalisé, on a mis en place la commission ISR. Ça nous a permis de lancer des discussions dès le départ et de continuer les discussions qu'on a eues avec l'AMF. Et ça s'est initié notamment par une réponse appropriée pour le secteur immobilier quand l'AMF a commencé à formaliser sa doctrine, ce qui était assez nouveau, sur l'adéquation de la communication des fonds et des gestionnaires entre ce qu'ils disent en matière d'engagement ESG, d'approche extra-financière et la réalité de leur action, de leur pratique. Au-delà de ça, naturellement, on a naturellement beaucoup travaillé sur la taxinomie. La taxinomie, c'est d'une façon générale, je veux dire, c'est que la réglementation financière est quand même un prix très fort valeur mobilière et que il faut réellement être présent pour montrer les spécificités tout en ne reniant pas la nécessité qu'il y ait une évolution, notamment en matière de transparence de la communication du secteur. Il y a quand même une spécificité liée au sous-jacent qui n'est absolument pas prise en compte par les décideurs au niveau européen et pas encore tout à fait au niveau français. Donc la taxinomie est quelque chose qui peut paraître lointain, abstrait, mais ce sera extrêmement structurant pour l'avenir puisque c'est une espèce de méta-définition de ce qu'est une activité durable et verte. Et dans le secteur du bâtiment, naturellement, il y a beaucoup de choses à redire sur l'activité appliquée aux gestionnaires. On a aussi beaucoup travaillé sur le règlement disclosure et on va continuer à le faire de façon plus poussée pour fournir des outils d'analyse, un guide, je dirais, à nos adhérents, parce que là aussi, c'est quelque chose qui va être très vite en œuvre et qui est très structurant pour nos adhérents, pour le secteur. Quoi d'autre? Je pense qu'on a aussi, de façon plus macro, là, on est plus sur la stratégie, même politique, mais c'est très important qu'on se cantonne pas à des sujets trop techniques, enfin très techniques, mais qu'on élargisse aussi notre positionnement vis-à-vis des acteurs qui président à notre destinée, et notamment lorsque la Commission européenne est en train d'élaborer sa stratégie renouvelée en matière de finances durables. C'est là aussi qu'on a pu se positionner sur un certain nombre de sujets qui sont très structurants pour le secteur, même si c'est pas immédiat, mais notamment les enjeux sur les data et notamment les data ESG. C'était des sujets très importants sur lesquels on a été aussi on se positionne pour qu'il y ait une appréhension de ces problématiques appliquées notamment à l'immobilier. Voilà ce que je peux dire. Je pourrais en dire encore beaucoup plus, mais je pense que ça suffit.
Oui, non, mais je pense qu'on est bien d'accord là-dessus, Véronique. Je vois le temps qui file. Non, oui. Peut-être juste pour conclure très rapidement, mais on voit bien que le mouvement est lancé. On n'en est encore qu'au début de l'histoire sur ces sujets ESG, mais le sujet est en train de se développer et de se normer à une vitesse grand V, d'où la nécessité finalement d'anticiper ces évolutions. Et puis, on voit bien surtout que l'ESG devient un sujet incontournable. Et là, je ferai écho aussi également à ce qui est des propos qui ont été tenus auparavant. Mais pour pouvoir répondre, ne serait-ce qu'aux attentes des investisseurs et de la société civile, et notamment de ces investisseurs peut-être plus jeunes et qui ont des attentes plus fortes sur ces sujets. Et que finalement, en fait, ce sujet ESG devient réellement partie intégrante de la gestion du fonds. Et je pense que c'est ce point-là qui est important à retenir in fine. Voilà, merci beaucoup Véronique pour cet échange. Et Jean-Baptiste, je te rends la parole pour conclure.
Oui, merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, hein, ces enjeux de développement durable et de finances durables vont prendre une place évidemment considérable dans l'environnement financier. Le point que je note et qui est intéressant, c'est qu'on observe effectivement un impact positif également, à la fois en termes de collecte et de performance, de l'intégration de ces critères dans la gestion de ces fonds. Et tout ça devrait militer pour un développement rapide. Il est l'heure de conclure. Moi, je voudrais vraiment remercier tous les intervenants ce matin pour la qualité des échanges et les partages d'expériences concrets. Je voudrais également remercier les participants pour votre écoute. Deux petits points pour finir. Il y a un questionnaire de satisfaction qui va apparaître là sur votre écran. Si vous pouvez le compléter en temps réel, hein, ça prend 2 minutes et c'est quand même pour nous l'occasion d'avoir un feedback et de faire évoluer ou d'améliorer le contenu de cette conférence. Et par ailleurs, on vous présente, on va publier en fin de semaine prochaine nos Pocket Guide 2021 à la fois sur les EPCI et les SCPI. On avait fait une mise à jour rapide au printemps, vous vous souvenez, avec les impacts du premier confinement sur les EPCI, notamment dans le cadre de la perspective de DVL au 31 mars ou des comptes semestriels au 30 juin. Là, on sort nos éditions 2021, donc on vous les fera parvenir sous format électronique également cette année, dès qu'ils seront totalement finalisés, notamment dès qu'on aura intégré toutes les dernières évolutions fiscales. Voilà, merci beaucoup à tous et à nouveau, très bonne année 2020, 21, pardon, et à très bientôt. Au revoir.